Radio Prague, les informations.
Les États-Unis prennent toujours au sérieux le bouclier antimissile. Le Premier ministre tchèque participera au sommet de Bruxelles le 1er mars. L'économie tchèque est la 37e économie la plus libre au monde. À Cracovie, la ministre tchèque de la Défense, Vlasta Parkanova, après la réunion des ministres de l'OTAN, a déclaré que les États-Unis prenaient toujours très au sérieux le projet d'un bouclier antimissile mondial. À Cracovie, son homologue américain Robert Gates a déclaré aussi que les plans de Washington étaient comparables à ceux de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Selon la ministre tchèque, l'OTAN reste persuadée que les menaces contre lesquelles le bouclier antimissile devrait être édifié existent toujours. Le porte-parole du chef du gouvernement tchèque, Jiří Potůžnik, a confirmé que le Premier ministre Mirek Topolánek, tout comme le président de la Commission européenne, José Barroso, participerait le 1er mars à Bruxelles au sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Europe centrale et de l'Est. Cette rencontre des représentants de la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et des républiques baltes aura lieu encore avant le sommet extraordinaire de l'Union européenne, consacré lui aussi à la crise économique. D'après les données publiées par la Fondation américaine Héritage et le quotidien Wall Street Journal, l'économie tchèque serait la 37e plus libre économie du monde. C'est l'économie de Hong Kong qui se classe en première place depuis 15 ans déjà. Les critères sont en premier lieu le niveau des droits de propriété, la régulation des salaires et des prix ou les barrières économiques. Une nouvelle encyclopédie de la préhistoire tchèque vient d'être publiée. Elle compte 8 volumes et selon l'archéologue de renommée mondiale, Evgen Neustupny, c'est une œuvre qui compte plus de 1400 pages. Avec un très grand nombre de cartes et d'illustrations, et qui a été réalisé par 49 spécialistes de 15 institutions scientifiques tchèques. La réalisation de cette nouvelle encyclopédie était indispensable, car la précédente était beaucoup trop influencée par le régime totalitaire d'avant 1989. Pour la première fois, les stars du catch ou wrestling américain se présenteront en Tchéquie. Le show, avec la participation des grandes vedettes de la WWE, le Raw, aura lieu à Prague le 11 juin à la Tesla Arena. Au programme, les stars de Raw comme John Cena, CM Punk ou Rey Mysterio et bien d'autres encore. Au championnat du monde de ski nordique qui vient de commencer à Liberec en Bohême du Nord, la République tchèque a remporté une première médaille, cela grâce à Lukáš Bauer. C'est une médaille d'argent aux 15 km classiques, derrière le premier Andrus Verpalu d'Estonie. En météo, la météo nous annonce toujours un temps hivernal, avec des températures bien en dessous du zéro, même dans la journée. Les chutes de neige seront fréquentes, aussi bien en plaine qu'en altitude. Attention aux brouillards matinaux et aux verglas. Le 21 février, le calendrier tchèque nous rappelle que nous fêtons l'Helenka. C'était Alain Slivinski, les informations sur Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour. La seule et unique intervention prononcée par Václav Klaus au Parlement européen dans le cadre de la présidence tchèque de l'Union européenne a suscité de vives réactions. Nous en parlerons tout de suite dans ces faits et événements. Ce jeudi, les chercheurs tchèques ont mis en service le Tokamak Compass, une installation devant permettre la production d'énergie à partir d'une nouvelle source pure et écologique. De la science passant à la culture, l'artiste tchèque Daniela Foltinova, qui expose actuellement ses œuvres au musée de Zlín, a confié à Radio Prague que c'est le sud de la France sa première source d'inspiration. Et le sport, la ville de Liberec accueille les championnats du monde de ski nordique et Guillaume Nargue est sur place pour nous parler de l'ambiance et du déroulement de la première journée à cette manifestation sportive jamais organisée en République tchèque. Tels sont les grands titres des derniers faits événements de la semaine. Très bonne écoute à toutes et à tous. Nous avons retenu quelques réactions au discours prononcé par le président tchèque Václav Klaus ce jeudi devant les députés européens. Alena Gebertova.
Různé bariéry a překážky nadále přetrvávají a rozhodování na úrovni Bruselu je jistě...
Pas de surprise, jeudi à Bruxelles. Václav Klaus n'a pas trahi sa réputation d'adversaire farouche de l'approfondissement de l'intégration européenne et du traité de Lisbonne. Comme prévu, son discours avait effectivement tout pour plaire aux eurosceptiques et aux souverainistes de droite et de gauche, sur la scène européenne et nationale, et pour irriter les autres. La télévision tchèque a cité dans son journal de jeudi soir l'eurodéputé allemand Daniel Cohn-Bendit, selon lequel c'était le meilleur discours carnavalesque qui ait jamais retenti au Parlement européen. Sur le sol du Parlement tchèque, le Premier ministre Mirek Topolánek a défendu le droit du président d'exprimer ses opinions.
S'il existe un échange démocratique de points de vue, il doit être respecté tant chez nous qu'au niveau européen. Au niveau parlementaire, le président Václav Klaus a tout à fait le droit de dire ce qu'il pense.
Enthousiasme, voilà l'expression utilisée en réaction au discours de Václav Klaus par plusieurs membres du Parti civique démocrate, issus notamment des rangs rebelles de ce premier parti gouvernemental. Le social-démocrate Lubomír Zaorálek est bien loin de partager ce sentiment.
Všichni by si měli uvědomit, že prezident Klaus, když mluví,
tout le monde devrait tenir compte de ce qu'à partir du moment où le président Václav Klaus prononce un discours au Parlement européen, il exprime la position de la République tchèque. Ses opinions sont perçues comme celles des Tchèques.
L'ensemble des quotidiens nationaux de ce vendredi commentent le discours de Václav Klaus. Lidové noviny saluent la hardiesse du président tchèque. Le quotidien économique Hospodářské noviny souligne qu'au moment où l'Europe centrale et de l'Est représentent la région la plus menacée au monde, le président tchèque prêche à Bruxelles le déficit démocratique de l'Union européenne. Le commentaire paru dans le journal Pravo s'ouvre sur un ton ironique. Quel bonheur d'avoir à la tête de l'État un président qui sait donner une réponse à tous les problèmes sur lesquels le monde entier se casse la tête. Mladá Fronta Dnes écrit que, après l'installation de la sculpture Anthropa à Bruxelles, avec le discours de Václav Klaus, une deuxième immense provocation est venue de Prague pendant la présidence tchèque de l'Union européenne.
Les chercheurs de l'Académie des sciences tchèques ont mis solennellement en service le Tokamak Compass, la version 10 fois plus petite du réacteur à fusion nucléaire actuellement en construction à Cadarache au sud de la France. Le Tokamak est une installation devant permettre à l'avenir la production d'énergie à partir d'une nouvelle source, la fusion thermonucléaire, qui devrait être sûre, écologiquement pure et pratiquement sans déchet. L'Académie tchèque a reçu le réacteur de Grande-Bretagne pour un prix symbolique d'une livre sterling. Après 5 mois de travaux d'installation, le tokamak, baptisé Compass, a été mis en service jeudi à l'Institut de physique des plasmas dans le 8e arrondissement de Prague. À 11h23, les journalistes et les invités présents ont pu suivre sur l'écran une brève lueur accompagnée d'un son émis par le transformateur. L'installation est capable de produire le plasma d'une température de plusieurs millions de degrés, explique Radomir Panek, chef de la section du Tokamak.
Le Tokamak Compass devrait être capable de maintenir le plasma pendant un délai de l'ordre de quelques centaines de millisecondes jusqu'à une seconde.
Dans le monde entier, il n'y a pas plus d'une dizaine de tokamaks. Celui de Prague est avec ses 21 tonnes, 10 fois plus petit que le réacteur de fusion ITER, actuellement en construction à Cadarache et qui devrait ouvrir la voie à une nouvelle source d'énergie, précise Václav Pačes de l'Académie des sciences.
Le tokamak ITER devrait être déjà un prototype de réacteur à base de fusion nucléaire.
Elektrárna pracující na bázi jaderné fúze.
donc un processus inverse à celui qui se produit dans les centrales nucléaires. Le but du projet Tokamak est de permettre sur la Terre le même processus que se déroule à l'intérieur des astres, c'est-à-dire la fusion des noyaux lors de laquelle une quantité d'énergie énorme se dégage, qui ne produit presque pas de déchets nucléaires et qui représenterait une source d'énergie pratiquement inépuisable. Un rêve que les chercheurs espèrent pouvoir réaliser d'ici à 2030. Trois mois avant la révolution de velours, Daniela Foltynová a émigré en France. Après un séjour à Paris, cette artiste tchèque découvre le sud de la France et tombe amoureuse de la région autour d'Antibes, où elle s'est depuis installée. Originaire de Zlín, c'est dans le musée de sa ville qu'elle expose jusqu'au 10 mai ses œuvres. On l'écoute au micro d'Anna Kubišta évoquer l'exposition intitulée « Mimosa ».
Alors, exposition de Mimosa, c'est ma troisième exposition en République tchèque sur ce thème-là. La première, c'était justement il y a 10 ans, en février. Et deuxième était à Prague, à Galerie Ungert, à Galerie Ivana Folova, à Prague, en 2000. Et maintenant, c'est ma troisième exposition qui est bien différente que les premières deux, parce que mes premières expositions, c'était plutôt de petits formats en gravure et décollage. Au contraire, maintenant, j'expose plutôt les grands formats en collage avec les techniques mixtes. Ça veut dire il y a des tableaux qui sont faits en acrylique et les photos, c'est que je prends pendant mes installations dans la nature ou pendant mes reportages photos, ce que j'ai fait pendant ce mois de février.
Alors pourquoi Mimosa?
Pourquoi Mimosa? Il y a à peu près 13 ans que je me suis installée au sud de la France. J'ai quitté Paris et je suis venue pour la première fois sur la Côte d'Azur en mois de mars, justement pendant le moment que Mimosa était en fleur. C'était devenu pour moi très très grand l'amour et ça m'a inspiré beaucoup beaucoup. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé encore la fin pour terminer, dire maintenant ça suffit.
Donc c'est un peu le symbole de votre lien à la France, si je comprends bien.
Oui, et en plus il y a une autre chose qui est très intéressante, parce que en tchèque, Mimosa, on n'écrit pas Mimosa, Mimosa, mais on écrit Mimoset. A, Mimosa, et Z, c'est comme Zlín, comme ma ville natale, et A, comme Antibes, ma ville où je vis en ce moment.
D'accord. Bah d'ailleurs, justement, alors cette exposition, vous l'organisez dans votre ville natale.
Je reviens régulièrement dans ma ville natale, où il y a beaucoup d'amis qui attendent toujours que je ramène quelque chose de nouveau, je ramène aussi mes amis français. Et je vais montrer aussi à mes amis français aussi c'est quoi des Moravies du Sud qui est magnifique, qui est si beau comme en ce moment Côte d'Azur en floraison de Mimosa.
Et votre région natale vous inspire-t-elle également?
Écoutez, je viens à vivre un grand contraste en ce moment, parce que ces dernières semaines, sur la Côte d'Azur, je me suis baladée à Tanneron, j'ai fait fête des Mimosas à Aguet, j'étais à Mandelieu-la-Napoule, la capitale des Mimosas, et lundi j'ai pris l'avion, j'ai atterri à Vienne, et je me suis rendue à Zlín, qui est complètement sous la neige, on va dire aujourd'hui presque la calamité de la neige, parce que il y a de la neige qui tombe, j'ai envie aussi faire un petit peu les installations entre la Mimosa et la neige.
Fin de la première partie de cet entretien avec l'artiste tchèque installée en France, Daniela Foltynová. Retrouvez-la dans une prochaine édition des Faits et événements. Comme je vous l'ai dit en titre, la ville de Liberec, au nord de la Bohême, accueille les championnats du monde de ski nordique, la plus importante manifestation sportive jamais organisée en République tchèque. Nous sommes en ligne avec Guillaume Narguet. Quelles étaient donc les épreuves de ce vendredi, Guillaume ?
Alors l'RK, trois épreuves figuraient ce vendredi au programme de cette deuxième journée des championnats du monde de ski nordique. Le concours de saut à ski féminin, tout d'abord le matin, la seconde épreuve du combiné nordique en fin d'après-midi, et entre les deux cet après-midi, le moment le plus attendu de ces mondiaux par le public et les médias tchèques, le 15 km ski classique, avec Lukáš Bauer, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de ski de fond la saison dernière. Les Tchèques possédaient là en effet leur principal espoir de médaille.
Il y avait aussi une compétition de saut à ski féminin, une première au championnat du monde.
Oui, pour la première fois dans l'histoire des championnats du monde de ski nordique, un concours de saut à ski féminin s'est tenu ce vendredi matin sur le petit tremplin situé sur les hauteurs de Liberec. Pour l'anecdote, c'est l'américaine Lindsey Vann qui s'est imposée avec deux sauts, le premier à 89 mètres et le second à 97 mètres et demi. Mais c'est une Française de 13 ans, la plus jeune participante de ces mondiaux, toutes disciplines confondues, qui a créé la surprise et retenu l'attention du public. Troisième à l'issue de la première manche, grâce à un saut à 90 mètres, Colin Mattel a finalement pris une très belle cinquième place après un second saut qu'il a vu atterrir à 87 mètres et demi. Il s'agit là d'une vraie révélation pour le sport français, et Colin Mattel, que vous pourrez entendre lundi dans notre rubrique sportive, était très ému à l'issue du concours. Nous vous invitons donc à écouter la rubrique sportive de Radio Prague lundi.
Les Tchèques attendaient bien sûr avec beaucoup d'impatience le 15 km style classique avec Lukáš Bauer.
Oui, alors médaillé d'argent pour 6 secondes et 3 dixièmes. Lukáš Bauer n'a donc pas été sacré champion du monde du 15 km ski classique. Le Tchèque en rêvait devant son public, mais c'est finalement l'Estonien Evar Rekeama qui s'est imposé. Le Finlandais Matti Ekinen complète le podium, tandis que les Français Jean-Marc Gaillard et Vincent Vitoz ont quelque peu déçu et se sont respectivement classés 14e et 23e, très loin donc du podium. Sur un parcours rendu très difficile par les incessantes chutes des neiges, Lukáš Bauer n'a donc pas rempli l'objectif qu'il s'était fixé en début de saison, à savoir être sacré champion du monde chez lui. Il ne lui aura toutefois pas manqué grand-chose, puisqu'il a figuré en tête de la course à chacun des temps intermédiaires.
Eh bien, Guillaume, on te remercie de tes informations à partir de Liberec, qui est depuis mercredi le théâtre des championnats du monde de ski nordique.
Voilà, au revoir.
C'était les faits et événements. Merci de les avoir suivis. Et c'est la rubrique économie que vous retrouvez à présent sur Radio Prague.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous partons pour une balade en forêt à une trentaine de kilomètres de Prague, près de la petite ville de Beroun. C'est là que le cuisinier savoyard Marc Vera, l'un des meilleurs cuisiniers du monde, veut lancer, avec des architectes tchèques, un projet futuriste d'hôtel-restaurant écologique avec cuisine biologique et laboratoire moléculaire. Rien que ça. Nous l'avons accompagné lors de sa première visite des lieux, tout ça sous la neige.
C'est assez romantique.
Ah, c'est beau, hein. Dis donc. On aurait pu prendre des skis de fond d'habitude, non, de savoir, hein.
C'est la première fois que vous êtes passé
par. Ah ouais, je découvre. Intéressant, hein. Et je vais demander immédiatement s'il y en a un cours d'eau, parce que la botanique, c'est très étagé, hein. Là, on est en partie sèche, partie complètement sauvage. Il faut des parties moins ombragées, plus au soleil. C'est des plantes différentes. Il faut aussi des plantes au bord des cours d'eau, parce qu'on a besoin d'humidité. Alors ils m'ont assuré qu'on va les voir, il paraît qu'il y a un cours d'eau plus bas. Se plaît l'ail des ours, les polypodes certains, les pierres entre autres. Et je suis sûr qu'il y a tout ça ici. Je suis persuadé, c'est dommage, il y a de la neige, mais je suis persuadé qu'il y a tout ça. Il y a du pain aussi.
Du pain, oui.
Il y a du pain. Je suis assez surpris par la quantité de pain d'ailleurs.
L'armoise.
Ouais, exact. Putain, génial.
C'est ça,
Non, ma femme là, elle m'étonne.
Ça fleurit jaune.
Non, pas celle-là. Ah, c'est de l'armoise, c'est dingue. Tiens ça.
Nous, on a ça quand.
Mais si tu veux, ouais, mais c'est ce qu'on appelle le romarin de montagne.
Ah oui.
Tiens ça.
Il y en a plein.
Très dangereux.
Oui, il y en a partout. Oui.
Le romarin de montagne, c'est vachement... C'est fort, hein.
Je le trouve partout ici.
Oui. Et on le met dans le... En montagne, on le met dans le rôti de porc.
Ah oui?
C'est pour agrémenter, pour aromatiser.
Ouais.
Mais ça se déguste, ça ne se fume pas, ça, attention.
C'est bon signe pour la forêt du Cid.
Ah ben ça, c'est une trouvaille, mais écoutez, c'est mon épouse qui vient de le trouver. Moi, j'étais en train de parler du terrain et je regarde tout attentivement. Non, mais c'est un peu. C'est vrai que je suis persuadé qu'il y a des. C'est une richesse. C'est une richesse.
Mais
et tu sais que l'arbase, c'est signe d'un terrain.
La chance.
Un terrain acide.
C'est normal avec les sapins.
Ouais, les sapins.
Ouais.
Dans la mesure où il y a de l'armoise, il y aura des zombidifères, c'est sûr.
Attention. À la mousse.
Oui. Tiens, Caroline.
Ouais. Ah oui,
voir.
Le trèfle. Le trèfle forêt.
Non.
On appelle
ça. Non.
Non.
Ah, merveilleux. Bah, j'en reviens pas, hein. Alors ça, c'est une trouvaille, hein.
Ouais.
On a partout ici.
Ça, c'est ma plante préférée, c'est l'oxalis des bois.
Ah oui?
C'est extraordinaire.
On appelle ça,
c'est l'herbe préférée des chevreuils.
Ah,
ouais, c'est,
ça,
ouais, je pique les œufs avec ça, c'est presque amer, tu vois, c'est entre l'acidité et l'amer.
Ouais.
C'est fantastique. T'as vu, Caroline?
Partout ici.
Et la même tige que chez nous. Tige violacée, exactement pareil.
Oui, voilà.
Tiens, ça c'est signe de bonheur, de porte-bonheur, ça. Et de richesse du terrain. Richesse botanique. Et on a déjà fait deux, on est sous la neige. Oui, l'oxalis. Mes œufs. Et ça doit te rappeler mon azote.
Oui.
Ça,
oui. Absolument. J'adore.
Je fais une recette avec la mousse, l'humus, un mélange de tout, de façon très moderne, contemporaine, et je le poche dans l'azote.
La cuisine moléculaire.
Ouais, c'est
et
ça.
J'en avais mangé, et c'est vraiment, si on mange ça,
les clients, je fais fermer les yeux aux clients, et allez, vous êtes dans la forêt, vous marchez, c'est absolument ça. On a tous les arômes.
C'est extraordinaire.
On est dans une zone complètement sauvage. C'est ça qui est très important. En fait, c'est la définition de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on veut, il veut interpréter, intégrer Pierre, avec mon ami, il veut interpréter, intégrer une architecture écologique au sein d'un lieu qui on peut dire que c'est biotope ici, hein. Ouais, c'est hallucinant. Et donc, c'est un respect de la nature. Et tout ça, on va faire en sorte. On me disait, en marchant, j'ai découvert sous la neige, hein, la richesse botanique. Et Pierre me disait, tu m'en avais parlé avant, il m'a dit, surtout c'est une richesse incommensurable. Il paraît que c'est des champignons, mais c'est une multitude de champignons. Et vraiment, il va falloir qu'on axe, je pense qu'il va falloir axer la cuisine sur la botanique, le champignon, et surtout sur il faut axer cette cuisine sur une nouvelle architecture d'environnement. Et là, c'est vraiment, c'est un groupe à trois. On a absolument la même philosophie. C'est une coïncidence, mais c'est assez merveilleux. Enfin, il faut penser que on peut servir des sapins, de la pierre, de la terre, des humus, de tous les minéraux qui sont là pour créer une nouvelle architecture culinaire. Enfin, je pense par exemple à la terre. Pouvoir travailler la terre avec un mélange de sapin et faire des cuissons devant le client.
Ouais.
Tu vois, se servir vraiment de ce que le bon Dieu nous a donné là autour. C'est ça qui est fabuleux. Je vous ai expliqué, c'est une rencontre entre des hommes un peu fous qui ont vu mon projet sur la commune de Manigaud et la résultante a donné que, ma foi, ils m'ont dit... Nous sommes de Prague et on a absolument le même projet à Prague. Alors voilà, la coïncidence a fait que les hommes se sont rencontrés et surtout, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que on sent que quelque chose est né à travers un cordon ombilical qui nous unit. Et ça, c'est le plus important. Parce que l'important, c'est que ce soit les mêmes hommes qui respectent la même nature. Ce qui est très important dans ce projet, c'est que c'est pas un projet d'ordre financier. C'est un projet c'est un projet de cœur et d'art de vivre, et de vivre différemment. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Absolument. Tout est réuni là-dedans et chacun va porter sa pierre. Chacun va porter sa pierre à l'édifice. C'est ce qui est merveilleux.
Nous reviendrons la semaine prochaine sur le projet de Marc Vera en République tchèque, en parlant notamment avec les deux architectes tchèques du projet architectural et de son financement. Merci à toutes et à tous de votre attention. À très bientôt.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez un très bon week-end. Au revoir. Nasrallahu.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.